Bonjour à tous. Nous avons beaucoup de choses à discuter ensemble aujourd'hui. Évidemment, le grand dossier dans l'actualité de la journée, c'est bien sûr la sentence que va recevoir Michel Cadotte. On prévoit que ça soit au cours des prochaines heures. Ça serait étonnant que ça sorte ce matin, mais ça nous donnera l'occasion quand même à nous de discuter en première heure d'émission de cette sentence qui attend cet homme. Vous vous souvenez bien sûr de Michel Cadotte. Il a été reconnu coupable de l'homicide involontaire de sa conjointe, Jocelyne Lizotte. Il l'avait étouffée avec un oreiller en février 2017. Madame Lizotte était atteinte d'Alzheimer. Une situation extrêmement difficile à vivre pour son conjoint de l'époque qui avait avoué lui-même qu'il avait un peu, entre guillemets, pété sa coche, qu'il était juste plus capable de la voir comme ça. Il a d'ailleurs utilisé l'expression comme un pantin, un peu désarticulé quand il décrivait sa conjointe. C'est tous les gens qui ont un proche qui est en perte d'autonomie, mais surtout qui est en perte d'esprit, qui est atteinte d'une maladie dégénérative comme l'Alzheimer. C'est extrêmement délicat, ce genre de choses. Voir un proche perdre peu à peu de sa lumière, ça affecte énormément. Évidemment, tous les proches aidants vivent des situations délicates. Toute cette cause, en fait, est intéressante sur plein de points. Et ce qu'il faut savoir ce matin, c'est que d'abord, la couronne réclame 8 ans. Les avocats de Michel Cadotte, eux, estiment que 6 à 12 mois de prison, ça serait bien suffisant pour envoyer le message, malgré tout, qu'il y a eu crime. Mais bon, c'est presque un meurtre par compassion. Alors, on va, si vous voulez bien, en discuter ensemble. Je vous présente mes invités. Il est avocat criminaliste. Maître Jean-Pierre Rancourt est avec nous. Bonjour, Jean-Pierre.
Bonjour.
Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Elle a accompagné d'ailleurs sa propre mère pendant 10 ans. Merci beaucoup d'être là, Sylvie. Merci. Docteur Georges L'Espérance est neurochirurgien. Il est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Docteur L'Espérance, merci d'être avec nous.
Un plaisir, Madame Maréchal.
Je vais commencer, vous me permettrez, avec Maître Rancourt, parce qu'évidemment, la première question qu'on se pose aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est est-ce que la sentence sera exemplaire, un peu pour montrer aux gens qu'on ne peut pas se faire justice soi-même? Est-ce que vous attendez à quelque chose du genre? Parce qu'entre 6 mois et 8 ans, il y a de la marge là, pour la juge.
Absolument. C'est difficile de prédire, de prévoir ce que le juge va faire, mais moi, je suis d'avis dans un cas comme ça que l'exemplarité, parce que habituellement, dans une sentence, il faut qu'elle soit exemplaire pour dissuader l'individu de recommencer, mais aussi pour dissuader la population en général de ne pas commettre ce genre de crime-là. Pour ce qui est de la dissuasion de l'individu, à mon avis, c'est pas nécessaire parce que il recommencera jamais, il sera jamais dans cette même situation-là. Mmh. Pour la dissuasion générale, moi je pense que il n'y a pas lieu à ce stade-ci d'avoir une sentence sévère pour ce motif-là, parce que je pense que les gens qui ont suivi, parce que ça a été tellement médiatisé, ouais. Ça l'est encore ce matin, les gens qui seraient dans la même situation ne penseraient pas à dire, bon, écoutez, je ne commettrai pas l'irréparable parce que j'ai peur d'aller en prison. Je pense que les gens, à ce moment-ci, avec tout ce qu'on a dit de ce dossier-là, décideraient plutôt d'aller chercher de l'aide plutôt que de commettre l'irréparable comme M. Cadotte l'a fait. Alors, je pense que la dissuasion, elle est faite au niveau de la médiatisation de cette affaire-là, plus qu'une sentence d'emprisonnement.
Est-ce que Maître Rancourt va essayer de nous prédire une sentence, Jean-Pierre?
Ben moi, je pense que ça pourrait être en bas de 3 ans. On sait qu'il a déjà fait quelques mois, peut-être 4 à 5, 6 mois, là, qui pourrait être compté en temps et demi, une journée pour une journée et demie. Mais moi, je pense que c'est une sentence qui devrait être en bas de 3 ans, ce qui est, dans les cas d'homicide involontaire, dans les sentences les plus clémentes, parce qu'on sait que c'est, il n'y a pas de minimum, hein, et le maximum est l'emprisonnement à perpétuité. Donc, un juge pourrait dire, j'évite la prison complètement, c'est une sentence suspendue avec une probation. On l'a déjà vu dans certains dossiers. Mais moi, je pense que dans ce cas-là, pour réaliser tous les objectifs d'une sentence, à mon avis, et je ne suis pas juge, c'est pour ça que je suis un qu'avocat, j'irais avec une sentence de moins de 3 ans.
D'accord. Sylvie Grenier, vous êtes directrice générale de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Je disais tout à l'heure, vous avez accompagné votre propre mère pendant 10 ans. Elle souffrait de cette maladie, d'ailleurs. Vous en pensez quoi de cette sentence? Est-ce que 3 ans, moins de 3 ans, nous dit Jean-Pierre Rancourt, qui est avocat, comment vous voyez ça de votre côté?
De mon côté, écoutez, je suis pas juriste, mais en même temps, je pense qu'effectivement, il faut faire la démonstration qu'on ne peut pas poser des gestes comme cela. On ne cautionne certainement pas ce geste. Mais en même temps, je pense que oui, la peine, c'est, il la vit depuis ce moment-là, M. Cadotte. Et toute la société en a pris connaissance aussi. Ce que je dis de ça, c'est la démonstration que ça m'a fait, moi, à cette cause-là, c'est toute la détresse que vivent les familles à travers de ça, ouais. Parce qu'on parle de M. Cadotte, mais on a entendu aussi la famille, toute la détresse qu'il y avait là, et de l'accompagnement qui a été manquant à travers de ça, à certains égards. Donc, c'est vraiment de voir comment au niveau de la société, on regarde cette cause-là, comment on va amener le verdict, et de surtout de s'en servir pour voir comment on va accompagner nos gens dans les années qui viennent, et ceux qui sont à accompagner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et toute autre maladie aussi de ce genre.
Oui. Docteur L'Espérance, vous êtes président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
Oui.
La famille de Mme Lizotte a rappelé au procès que c'était pas... malheureusement, la façon dont ils auraient aimé et souhaité qu'elle meure, que ça reste une mort violente. Il y a une membre de la famille de Mme Lizotte qui a témoigné en faveur de Michel Cadotte, mais de ce que je comprends, je n'ai pas assisté au procès, là, mais tous les autres semblent avoir quand même regretté férocement ce geste-là et dénoncé le geste. De votre point de vue de médecin qui s'intéresse justement au droit de mourir dans la dignité, vous vous situez où par rapport à la sentence? Qu'est-ce qu'il mérite, d'après vous, Michel Cadotte?
Ah, je n'irai certainement pas sur le terrain de ce qu'il mérite. Ça appartient au juge, et Maître Rancourt et Mme Grenier ont bien résumé la situation. Ça demeure un homicide.
Mais aux yeux de la société, quand même. Tout le monde a une opinion là-dessus. Là.
Ça demeure un homicide, ouais. Et le meurtre par compassion n'existe pas dans notre droit. Alors, ça clôt la discussion, à mon avis.
Mais s'il existait, le meurtre par compassion?
Ah ben là, ça pose des gros problèmes, parce que où commence la compassion? Qui va quantifier la compassion? À gauche, à droite, c'est quoi le niveau de compassion que monsieur ou madame va avoir?
Ouais.
Vous savez, c'est exactement le même exercice que les juges font dans tous les cas, que ce soit des grands criminels. Ils font toujours un examen de toutes les circonstances. Donc, moi, on ne peut pas du tout endosser ça, d'aucune façon, parce que, appelons-le pour les besoins de la discussion aujourd'hui, le meurtre par compassion,
ouais.
Ça demeure un homicide et ça demeure un acte qui est fait contre la volonté de la personne. Alors, la question que ça pose, c'est pour plus tard, est-ce que dans des directives médicales anticipées, une personne devrait avoir le droit de dire « a rendu à tel moment de ma... » d'échéance cognitive, disons ça comme ça, pourrais-je avoir l'aide médicale à mourir? Alors ça, c'est ce pourquoi nous travaillons à l'association, c'est ce pourquoi plusieurs personnes veulent travailler. Maintenant, c'est relativement facile à dire. Lorsque je serai dément, je voudrais avoir de l'aide médicale à mourir. L'opérationnalisation est une toute autre question. Alors, c'est un débat qu'il faut faire. Je crois qu'il faut aller vers là pour éviter justement ce genre de situation.
Parce qu'il y a beaucoup de subjectivité aussi. Je me souviens que Michel Cadotte avait dit à un moment donné qu'il semblait lire dans les yeux de sa conjointe un désir de fin de vie.
Mais écoutez,
qu'elle l'implorait presque là, de mettre fin à ses jours.
Parce que vous dites que c'est contre
la volonté de la personne, mais là encore, c'est subjectif. Qu'est-ce qu'on lit dans l'œil de l'autre?
C'est très contradictoire parce qu'on dit on lit ça dans ses yeux, mais à l'inverse, on dit qu'une personne qui est dans cet état-là n'a aucune capacité de décider pour elle-même. Donc, ce serait très difficile de penser qu'elle peut exprimer quelque chose dans ses yeux. Je fais un parallèle qui est très boiteux, comme toutes les comparaisons, mais les patients... comateux profond, en coma végétatif depuis des années. Les familles vont toujours nous dire la même chose. Ben, vous savez, il a ouvert un œil, il a bougé un peu. On a l'impression qu'il nous regarde puis qu'il pleure. On a le cas de Vincent Lambert en France, par exemple. Ça n'a aucune espèce de valeur. D'abord, comment peut-on le quantifier? Comment pourrait-on le qualifier? Donc, ceci pour dire que d'apporter la mort sans aucune précision préalable de la personne lorsqu'elle n'a pas l'aptitude pour le demander, ça demeure un homicide et je pense que ça doit être complètement banni. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi actuellement pour tous les patients qui sont déjà déments. Maintenant, la question est-ce que dans des directives médicales anticipées bien préparées, puis avec un diagnostic de démence déjà donné, C'est d'ailleurs la recommandation des sénateurs et des députés au fédéral, recommandation numéro 7. Lorsque vous recevez un diagnostic de trouble cognitif, quelle qu'en soit la cause, vous pourriez avoir le droit d'avoir l'aide médicale à mourir en l'identifiant très bien. Quel est le moment? Ouais. C'est à la personne de décider. Après ça, il y a toute la question du mandataire. Qui va décider
de l'appliquer?
Ouais. Aussi les médecins ou les infirmières qui vont l'appliquer à une personne qui n'a plus du tout de contact avec la personne qui est en face d'elle. Ça pose des gros problèmes, mais je crois qu'il faut aller vers là.
Mm-hmm. En même temps, on a vu qu'au Québec, c'est difficile, même ceux qui ont le droit de mourir dans la dignité, là, qui ont tout ce qu'il faut pour demander. Puis on voit que si tu habites à Québec, ben, tu as plus de chances de te faire... accepter ta demande et qu'on procède relativement rapidement comparativement à quelqu'un qui serait à Montréal où il y a encore beaucoup d'opposition chez les médecins.
Oui, ben juste quelques secondes là-dessus parce que ça ne porte pas ici sur ce sujet-là, mais vous avez raison de dire que c'est Montréal qui est différent du reste de la province.
Mais c'est relié quand même.
Ça va relativement bien, particulièrement à Québec d'ailleurs.
Ouais.
Mais c'est à Montréal où il y a une opposition, disons-le carrément, là, idéologique et ou religieuse de la part des institutions et des médecins.
Oui, mais ça fait partie de la discussion dans la mesure où pour les gens qui vivent cette situation, d'être proche aidant, Mme Grenier, vous l'avez été, de quelqu'un qui est Alzheimer. Moi, j'ai interviewé des gens, là, ça fait des années, il n'y a plus de répondants. Le proche n'est plus là, c'est fini. Je pense que tous les Québécois sont touchés par l'affaire Michel Canotte à cause de ça. C'est qu'on se met à sa place, on a beaucoup d'empathie, puis on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Vous l'avez vécu, Sylvie, cette situation-là. Je sais que votre mère n'est pas morte de l'Alzheimer comme telle, mais elle a vécu l'Alzheimer vive l'Alzheimer, si on peut le dire comme ça. Là, mais vous l'avez vécu, l'Alzheimer de votre mère, en tout cas pendant longtemps. Avez-vous déjà eu une pensée que ça n'avait plus de bon sens puis que vous vouliez que ça finisse?
Pas dans le cas de ma mère. Non, pas dans le cas de ma mère. On ne s'est pas rendu là, heureusement.
Elle est décédée. Pourquoi? Parce que vous aviez de l'aide?
Parce que oui, on est allé chercher de l'aide. On était une famille qui s'était organisée pour la soutenir aussi. Mais aussi parce que ma mère ne s'est pas rendue à cette perte cognitive-là où elle perd sa dignité et l'étalité. Elle est décédée d'une crise cardiaque. Donc, c'était un mal pour un bien. Où nous, on ne l'a pas vu se rendre jusque-là. Mais par contre, je travaille pour les sociétés Alzheimer depuis quand même plusieurs années. J'ai travaillé avec les proches aidants beaucoup et j'ai vu plusieurs cas où justement des familles, oui, les personnes étaient atteintes, étaient alitées. Quelques-unes étaient gavées, mais il n'y avait pas de moyen de faire autrement. Et la médecine aussi, je vous dirais, ne s'acharnait pas, mais faisait en sorte de maintenir la personne. On ne voulait pas la faire mourir de faim. Mais avec les directives médicales anticipées, c'est quelque chose qu'on peut aussi prévoir à travers de ça. Et ça, peu importe que ce soit la maladie d'Alzheimer ou autre maladie, où on peut faire des recommandations où à certains moments, il y a un arrêt de soins, ou encore on ne s'acharne pas dans les soins à donner. Et ça, tout le monde peut y avoir accès.
Ouais.
Donc, oui, c'est difficile. Et je le disais tantôt, c'est difficile pour la personne qui est atteinte, mais c'est aussi difficile pour la famille parce que la compassion, on l'a, mais c'est la détresse que les gens reçoivent aussi, qui ne veulent pas voir la personne dans cet état-là. Donc, mais la personne, souvent, pour elle, bon, elle dort ou n'a plus conscience non plus de son état.
Ouais.
Donc, est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle a de la douleur? Ça, la médecine peut y voir. Mais moi, dans ce cas-là, ce que je trouve, c'est que d'abord, il faut travailler en prévention, c'est-à-dire ou en amont, pour accompagner la famille dans ces étapes-là et faire en sorte qu'on les soutienne et qu'ils aillent chercher le soutien psychologique que ça prend. Parce que c'est beaucoup ça. Hein. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile de voir une personne aimée perdre sa dignité et se rendre à ce point-là.
Maître Rancourt, est-ce qu'on peut dire, finalement, par extension, que la sentence que va recevoir Michel Canotte aujourd'hui, c'est presque un peu... Il va payer pour le fait qu'il n'a pas jugé bon de demander de l'aide ou qu'il n'en a pas trouvé ou qu'il a mal été guidé?
Absolument. Et vous savez, on peut y reprocher de peut-être pas avoir fait les efforts nécessaires. Mais n'oublions pas dans le dossier, à l'époque, quand la famille a témoigné, le fils même a avoué qu'il ne pouvait plus aller voir sa mère parce que ça le mettait dans tous ses états quand il sortait de là. Donc, il allait de moins souvent possible. Alors que Canotte, lui, était là à tous les jours, ou presque, puis il s'en occupait, malgré Alors, tout ça, faut prendre ça en considération. Oui, il a peut-être pas été chercher de l'aide. Oui, peut-être qu'il y a eu un geste à un moment donné, là, qui, comme il dit, il a perdu la tête un peu.
Mais il s'est ramassé tout seul pour gérer ça, finalement.
C'est ça. Puis ouais. Ce matin-là, il dit qu'il arrive, puis il voit qu'elle est assise, puis la tête, le cou presque cassé, parce que personne l'a installé comme il faut. Donc, les soins aussi, difficiles pour lui. Alors, dans son état d'esprit, on peut comprendre le geste. On peut pas l'accepter. On peut pas dire qu'il faut faire ça. Mais moi, je pense pas, et je reviens là-dessus, je pense pas qu'une sentence d'emprisonnement sévère fait en sorte que ça empêcherait d'autres personnes dans la même situation de commettre l'irréparable. Moi, je pense que on a eu une leçon. La société québécoise a eu une leçon avec ça. Et que les gens vont aller chercher de l'aide beaucoup plus que commettre ce crime-là.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. Très courte pause, bien sûr. Je vais demander aux auditeurs leur opinion là-dessus. La question, évidemment, ce serait si on avait le meurtre par compassion au Québec, ce serait de voir si, effectivement, dans un cas comme ça, le cas de Michel Cadotte s'appliquerait. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir ce genre de choses? On va revenir après la pause sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de pays. On va voir s'il y a un endroit où ça existe, là. Meurtre par compassion. Il y a la Suisse, entre autres, où on permet certaines largesses, mais ce n'est pas non plus considéré comme du meurtre par compassion.
Non, c'est un suicide.
Exactement. En fait, bref, je vous pose la question, est-ce que vous comprenez le geste de Michel Cadotte? Est-ce que vous avez une certaine empathie pour lui ou vous estimez que faire son propre, décider soi-même de rendre justice à de se faire justice soi-même d'une certaine façon, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il voulait abréger les souffrances de quelqu'un qu'il aimait. Est-ce que on peut comprendre ça? Est-ce que ça mérite la prison? C'est un peu de tout ça dont on discute. 514-790-9850. À tout de suite. Alors, si vous étiez la juge, Hélène DiSalvo, qu'est-ce que vous feriez? C'est pas une sentence qui est facile à rendre, bien sûr. Il y a tout un travail derrière ça. Je vous rappelle que le procès a été très suivi. Vous l'avez sans doute suivi, vous qui nous écoutez. Quelle sentence devrait recevoir Michel Cadotte, lui qui a été reconnu coupable de l'homicide involontaire de sa conjointe, Jocelyne Lizotte, qu'il a tué avec un oreiller en février 2017. Elle souffrait d'Alzheimer. Ça, c'est le contexte. Ensuite, le contexte plus élargi, c'est que Michel Cadotte était seul depuis un certain temps pour s'occuper de sa conjointe et que visiblement, il a eu une perte de pied qui a amené à cette tragique incident. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que ça mérite? Comment doit-on comprendre le message que va être envoyé à la société et quel message veut-on envoyer ici à la société? Raymond, bonjour. Vous êtes un citoyen, vous suivez ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, tant qu'à moi, non. Ça dépend toujours des choses. Moi, j'ai perdu ma soeur le 7 mars, là, 2 ans, ma meilleure amie.
Oui.
On l'a vu râler, là, pendant 36 heures de temps, les derniers tours, à la maison, l'oiseau bleu à Boucherville, ils ont prodigé des soins de toute beauté. OK? Mais là, ça traînait, là, parce qu'il y a une petite piqûre pour la tenir plus long, une petite piqûre. Mais là, ma mère, là, est en chaise roulante. Puis on a passé 36 heures là, ces derniers rounds là, OK? Puis moi, là, je te le dis, là, Isabelle, là, mon frère, il est rentré dans la chambre matin, OK? Parce qu'à 6h30 du matin, je disais à tout le monde, allez, sortez, maman, tout le monde, allez déjeuner, je vais rester avec. Mon frère, il est rentré dans la chambre, parce que moi, là, j'ai enlevé l'air là, dans le nez, OK? Quand tu vois tout le monde, je suis pas quelqu'un là, qui veut se débarrasser pour les assurances ou quoi que ce soit, mais quand tu vois tout le monde, puis ça dure depuis des mois, puis l'année passée, j'ai vécu la même affaire avec ma fille qui est morte du cancer du cerveau. Ils l'ont drainée, c'était un légume endormi, elle vomissait du sang noir par le nez, puis tout. C'est quoi la loi? Je m'excuse bien, là, mais j'ai été obligé de péter un plomb pour ma soeur, moi. Puis aller péter un plomb en avant au sol de gaz, tu l'as bien fait de quoi? Parce que c'est moi qui vais le faire. Ouais. Appelle le docteur, là, c'est fini, tu sais.
Puis là, donc, Raymond, vous vous dites que vous comprenez tout à fait le geste de Michel Cadotte, en fait.
Oui, honnêtement, oui, OK? Puis je ne penserais pas que, monsieur, donnez-y du temps. Si vous êtes capable d'en donner aux abuseurs sexuels pour criminels qui restent chez eux dans la maison, puis qui seraient gardés, faites donc la même affaire.
Merci. Merci, Raymond. Gabriel, votre opinion sur la sentence que devrait recevoir Michel Cadotte cet après-midi?
Bonjour, madame. Moi, je suis totalement en désaccord s'il y a une sentence de monsieur qui a fait ça par compassion. Le seul crime qu'on pourrait l'accuser, c'est l'amour. Il aimait sa femme, il était plus capable de l'avoir comme ça. Je trouve qu'on fait dur au Canada puis au Québec pour ça. Je pense que la société au complet serait d'accord avec moi en disant que le monsieur ne mérite pas de prison pour ça. Moi, personnellement, je vis avec ça à chaque jour. Ma grand-mère a fait d'Alzheimer et de la démence. Elle a 95 ans, la dame. Mm. Elle n'est plus capable de vivre présentement. Quand on la voit, j'étais la voir la semaine dernière, elle ne se rappelait même pas de mon nom. C'est déchirant de voir ça. C'est déchirant. Je pense que le Québec, on est en 2019, on serait capable de prendre des mesures en considérant des mesures pour pouvoir éliminer ce genre de choses-là. C'est pas humain. C'est inhumain. Le monsieur présentement qui est en cours, là, comment il doit vivre, lui? Il a passé, je pense, 6 mois en prison à date pour pouvoir attendre son procès, pour avoir une peine, peut-être par le procureur, mais on est 8 ans. Dans quel monde nous vivons? Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a totalement aucun sens. Ça n'a
mais Gabriel, vous dites, c'est un. Puis je suis désolé d'entendre que votre grand-mère a 95 ans et plus là, finalement. Est-ce qu'elle avait pris des mesures tout à l'heure? Le docteur Georges L'Espérance disait on peut aujourd'hui, quelqu'un qui se sent là, en train de partir peut prendre des mesures pour dire ben voici mes directives médicales anticipées, c'est-à-dire avant même de savoir qu'on ne sera plus là, on dit voici ce que j'aimerais que vous fassiez.
Depuis l'âge de 80 ans, elle a fait de la démence. Puis à l'époque, ma mère, c'est ça qui est en équipe, elle a eu une dérogation pour elle. Donc une procuration, pardon, pour elle. Mm-hmm. Mais il n'y a pas eu de démarche comme telle avant
sa démence. Donc aujourd'hui, il faut attendre qu'elle meure de sa belle-mère, c'est ça?
Exactement, mais ça n'a pas de sens. Comme le pauvre monsieur présentement en cours, il va avoir une peine de santé, il va avoir un casier criminel. Pourquoi? Parce qu'il aimait sa femme puis t'es plus capable de la voir que dans l'état qu'elle est. Mm. Puis on va me dire à moi que c'est normal. Mm. Non, je suis désolé, mais j'accepte pas ça. Pas dans une société comme la nôtre.
Sauf que en même temps, comment s'assurer qu'il n'y ait pas de l'abus?
Ça, c'est un autre débat, mais moi je vous relance la question. Alors, qu'est-ce que vous aimez mieux, voir un innocent en prison ou voir 10 criminels à l'extérieur? Je vous pose la question alors. Moi, j'aime mieux voir 10 criminels à l'extérieur qu'un en dedans pour aucune raison. Mm. Ouais. Moi, c'est mon point de vue.
Merci beaucoup, Gabriel. Merci. Jocelyn, bonjour.
Bonjour à vous. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'on entend les témoignages de monsieur qui vient de parler, là. Puis je me dis que monsieur Lisotte, là, si je pourrais m'adresser à la juge qui va le juger, là, je lui dirais, le monsieur a déjà fait son teint. Son teint, là, il l'a déjà fait par rapport aux souffrances qu'il a eues, qu'il a endurées. Et on est dans une société, malheureusement, qui est très égoïste, hein. Parce qu'on souvent, on prend moins soin des personnes qui sont en santé, des jeunes dans les rues, partout. Mais quelqu'un qui est rendu en fin de vie, moi, j'ai vécu mon père qui est mort d'Alzheimer. On l'a laissé aller tranquillement, toute la famille. Tout le monde était d'accord dans le sens que je pense que c'est de l'amour envers la personne. C'est ce que j'appelle, moi, de l'amour inconditionnel.
Merci beaucoup, Jocelyn. Jocelyn parlait du temps que Michel Cadotte a déjà fait en prison. Jean-Pierre Encourt, avant la pause, il faut peut-être préciser, pour ceux qui l'auraient manqué, qu'effectivement, ce temps-là va être considéré dans la sentence.
Oui, absolument, ça va être considéré. Sauf que ce que votre auditeur parlait aussi, c'est qu'il a fait son temps, oui, en prison, mais il a fait son temps aussi pendant tout le temps qu'il s'est occupé de sa femme, puis que je l'imagine à tous les jours là, pleurer et avoir énormément de peine de la voir se dégrader comme ça. Alors ça, c'est une
Mais la juge peut-elle vraiment considérer ça, mettre en cours?
Absolument.
Ah,
absolument.
Oui?
C'est un facteur atténuant qui fait en sorte que le juge peut le prendre en considération en disant, voici pourquoi je ne donnerai pas, par exemple. Moi, ce que je trouve curieux, c'est que la couronne demande 8 ans. 8 ans là, pour un homicide involontaire, ça se situe dans la fourchette, dans les crimes d'homicide involontaire à peu près les plus graves.
Ouais.
On a vu dernièrement là 12 coups de couteau donnés par un individu sur un autre, puis que bon, la couronne décide d'accepter un homicide involontaire, puis on lui donne 12 ans. Vous savez, demander 8 ans, à mon avis, ça ne prend pas en ligne de compte les circonstances de l'affaire. Et c'est trop sévère, ça n'a pas de bon sens pour moi. Je ne pense pas que la juge va aller là non plus.
Mm-hmm. Merci, Jean-Pierre. On revient tout de suite après ceci avec les commentaires de nos auditeurs et les réactions de nos invités. À tout de suite. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que Michel Cadot devrait recevoir une sentence exemplaire telle que demande la couronne qui réclamait 8 ans de prison évidemment, dans la mesure où on veut envoyer un message clair, 8 ans, ça paraît quand même beaucoup, mais c'est en même temps, c'est clair. Mettre en cour, d'ailleurs, je me posais la question, Jean-Pierre, pourquoi autant? Pourquoi 8 ans?
Ben, je me suis demandé la question moi-même, mais je n'ai pas la réponse, il faudrait le demander à la procureure, mais je vais vous donner un exemple. Une chicane arrive à un moment donné entre deux individus, on l'a vu dans la jurisprudence, on l'a déjà plaidé moi-même. Une chicane de bar, par exemple, et on se met à se battre. Les deux individus se battent et il y en a un qui est plus fort que l'autre, puis le coup de poing est tellement terrible, l'individu tombe et s'assomme et meurt. Alors, on appelle ça un homicide involontaire parce que l'individu n'avait pas l'intention de le tuer, mais il a commis un acte criminel, c'est-à-dire les voies de fait. Et souvent, on va s'entendre avec la couronne pour une sentence de 4 ans de pénitencier pour ça. Alors, moi, je pense que c'est beaucoup plus grave, cette bataille-là, parce qu'on est en boisson, puis qu'on décide de se battre, puis qu'on tue quelqu'un involontairement, que le cas de Cadot. Alors, quand on parle de 8 ans de pénitencier, moi, je la comprends pas, celle-là.
Mm-hmm. On a Marie qui est avec nous. Bonjour, Marie.
Oui, bonjour. Moi, j'écoute tout ça, là, depuis tout à l'heure, et j'ai une solution à apporter. Toujours la prison pour des gens qui, finalement, le méritent pas en tant que tel.
Oui.
Je suis d'accord d'abord en partant avec le monsieur qui disait qu'il y a beaucoup de criminels qui ont des sentences bonbons pour la population. Quand tu as donné un exemple, donnons un exemple avec ceux-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand je pense, moi, à l'avortement, je vais vous arriver avec ma solution pas après, là. C'est des petits bouts de choux tout à fait adorables que par milliers, la loi a passé qu'on tue, qu'on ne prend même pas en charge, qu'on n'a même pas vu de sa vie le bout du nez. Puis ça, c'est accepté par la population.
Marie, je me permets de vous arrêter ici parce que on n'ira pas dans l'avortement. Puis il y a toute la notion du fœtus, à quel âge et tout ça. C'est quand même dans les droits prioritaires de la femme de disposer de son corps. Le Canada est en faveur de l'avortement. Donc, on ne viendra pas là-dessus au Québec. Heureusement, on ne vit pas aux États-Unis. Mais je vous ramène donc à la cause de Michel Cadot. Je vous remercie de votre commentaire. On va passer à Martin parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut intervenir. Martin, quelle est votre opinion là-dessus?
Mon opinion, moi, c'est qu'il ne devrait pas avoir une sentence d'emprisonnement. Et je me pose la question suivante, c'est que le jury avait une possibilité de le reconnaître coupable d'homicide non prémédité, de meurtre non prémédité, et ont décidé de donner le jugement le plus faible, à savoir l'homicide involontaire. On n'aura jamais la réponse. S'il y avait eu la possibilité de l'acquitter, je me demande même si le jury n'aurait pas rendu un jugement d'acquittement. Parce que dans un cas comme ça, moi, j'ai moi-même passé par un accident de la route. J'ai été moi-même traumatique crânien et la famille, moi, avait décidé, dans mon cas à moi, de débrancher mon respirateur artificiel. Et ma famille m'avait parlé, m'avait dit, regarde, c'est là que ça se passe, c'est soit que tu continues ou que tu arrêtes. Et moi, j'ai eu la chance de continuer à respirer. J'ai réussi à m'en sortir. J'avais une chance sur 100 000 de m'en sortir comme je m'en suis sorti. Mais aujourd'hui, je rencontre ma famille et je lui dis merci. Merci d'avoir débranché, me forcer à continuer à vivre parce que vivre dans une qualité qui s'enlignait vers moi, j'aurais aimé mieux mourir.
Oui. Je comprends. Merci beaucoup.
Ce monsieur-là aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas un monsieur qui s'est présenté juste une fois à l'hôpital et qui a décidé de l'arrêter de souffrir et s'en aller. Non, il a souffert lui-même. Il savait qu'est-ce qu'il risquait et il a assumé quand même le risque qu'il encourait et il a décidé de le faire. Donc, il a donné sa vie à sa femme pour l'accompagner pendant qu'elle souffrait et il a donné une partie de sa vie suite à sa mort. Qui vit présentement. Qui
donc je vous sens tout à fait partisan du meurtre par compassion, si jamais ça pouvait exister. Merci Martin, on disait tout à l'heure, Jean-Pierre Rancourt, qu'on se posait la question, est-ce qu'il y a un endroit sur la planète où ça existe, le meurtre par compassion, Maître Rancourt?
Ben, je suis assez au courant de ça. Vous avez parlé d'un pays là, scandinave, je pense, où c'est accepté, mais encore.
Il y a la Suisse, en fait, où c'est le suicide assisté.
Suicide assisté en Suisse, mais la personne doit avoir totalement sa capacité d'aptitude pour le,
c'est ça. Le demander. Parce qu'on n'arrivera jamais à admettre dans un pays le meurtre par compassion, parce que on parle de suicide assisté, d'accord, on parle, mais le meurtre par compassion ne pourra jamais être accepté comme une défense pour arriver à un acquittement.
Parce qu'un meurtre, c'est un meurtre, point, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Ça peut être une circonstance que le juge va prendre en considération. On pourrait peut-être amender le code criminel et dans le code d'homicide involontaire par compassion, ben là, avoir des sentences beaucoup plus clémentes que l'homicide involontaire tout court.
Mm-hmm. Je pensais que Marie, tout à l'heure, allait nous proposer, disait qu'elle avait une solution. Je pensais qu'elle allait peut-être proposer une sentence dans la communauté. Est-ce que ça, c'est impossible, hein? Ça,
impossible parce que c'est exclu lorsqu'il y a de la violence physique.
Ouais.
On ne peut pas avoir de sentence en communauté. On pourrait revoir ça, par exemple. Je pense que le législateur pourrait revoir ça dans des cas comme ça, faire des exceptions où ça serait possible. Parce que cet individu-là qui fasse de la prison chez lui, par exemple, je pense pas que ça aille contre l'intérêt de la société, sauf que le code criminel ne le prévoit pas.
Donc, il pourrait pas, même pas avoir un bracelet...
Donc, tout ce que la juge pourrait, pour faire ça, la juge pourrait dire, OK, monsieur, je vais vous donner une sentence suspendue,
oui.
Donc pas de, avec probation, et dans la probation, je vais vous mettre des conditions. Je vais vous mettre la condition d'être chez vous 24 heures sur 24, sauf pour les fins de travail, comme par exemple la sentence qu'un juge peut donner en communauté, c'est-à-dire prison chez vous, mais elle pourrait le faire à l'intérieur d'une probation.
Donc, est-ce que la sentence suspendue, ce que vous dites, Jean-Pierre, c'est que la sentence suspendue, ça serait possible dans un cas comme celui de Michel Cadotte?
Ça serait possible parce que le législateur prévoit que pour un homicide, il n'y a pas de minimum d'emprisonnement. Donc, le juge peut donner ce qu'elle veut. Et comme on ne peut pas donner d'emprisonnement chez lui, on pourrait le faire par le biais de la probation. Ça serait contourner un petit peu le code criminel, mais ça serait faisable, ça serait légal.
OK. Mais vous sembliez dire que ça serait peu probable d'après vous, puisque vous nous disiez tout à l'heure 3 ans et moins.
Oui, je pense que c'est un peu... c'est pas probable parce que la juge va prendre tout en considération, mais aussi, elle doit aller avec l'exemplarité au niveau de la population. Donc, elle va probablement choisir dans le milieu et donner une peine d'emprisonnement, mais qui ne sera pas, à mon avis, extrêmement sévère.
Mmh. Il y a la notion de responsabilité diminuée aussi, Jean-Pierre Rancourt. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un peu ici? Est-ce que ça peut s'expliquer, cette responsabilité? S'appliquer plutôt, responsabilité diminuée, ça veut dire quoi?
Ouais, ben, c'est pas inclus dans le code criminel, c'est pas légal, mais c'est une circonstance atténuante. La responsabilité atténuée, par exemple, vous avez commis un geste, mais vous pouvez l'expliquer. Ça ne vous amène pas à un acquittement, mais ça fait comprendre au juge dans les circonstances dans lesquelles vous l'avez fait pour que démontrer que votre responsabilité est moindre que normalement elle aurait dû être. Alors ça, c'est un facteur que le juge prend en considération pour décider de la sentence et d'être peut-être plus clément.
Mmh. On a Huguette qui est avec nous. Bonjour Huguette, votre conjointe en CHSLD.
Oui. C'est ça, ça fait un an parce que j'étais aidante auparavant parce que mon mari était diagnostiqué en 2011, mais ça a commencé...
Avec l'Alzheimer?
Oui, l'Alzheimer, il en a perdu la vue, j'ai jamais su pourquoi, il est plus capable d'ouvrir ses yeux depuis 3 ans. Quand je vais le voir, c'est très douloureux, je peux vous le dire. Mais je comprends dans un sens, M. Cadotte. Moi, je serais pas capable, là. J'aurais pas été capable de faire ça. Même quand je pense que je le verrai plus, là, c'est terrible. Mais, c'est juste ça. Je comprends. Il devrait pas avoir une sentence de prison.
Vous souhaitez pas que Michel Cadotte aille en prison du tout?
Non. Parce que déjà, il a souffert assez longtemps que... Je m'excuse,
Mais non. Huguette, on est avec vous. Écoutez, c'est tellement épouvantable parce que plein de gens vivent. Et c'est pour ça que cette cause-là touche tellement de monde aujourd'hui qui sont aidants naturels. Merci, Huguette, de votre témoignage. Mon Dieu, c'est extrêmement troublant, Sylvie, d'entendre ça.
Oui, tout à fait. Et,
il y a beaucoup de compassion. C'est ça qu'on entend ce matin aussi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent.
Qui comprennent, qui le vivent eux aussi au quotidien. Et là où moi aussi, ça m'interroge beaucoup quand on parle de meurtre par compassion. Non, ça reste un acte criminel. Et comment on prévient pour les années qui viennent?
Ouais.
Quand on parle de la prévalence démographique et de la maladie d'Alzheimer, ça va plus que doubler d'ici 10 ans. Donc, comment, comme société, comme intervenant, on va faire attention à nos gens? Comment on va s'équiper, j'ai envie de vous dire, parce que présentement, on n'est pas prêt. Et pour accompagner ces familles-là, pour accompagner les personnes atteintes aussi, pour faire en sorte qu'ils aient des soins adéquats et qu'on soulage la détresse des personnes, des proches aidants, des familles et des personnes atteintes.
On sentait bien qu'Huguette était très fragile. Je voulais lui demander si elle avait le soutien dont elle a besoin, là. Mais c'est sûr que c'est extrêmement...
C'est très difficile. C'est très difficile et je vous dis que pour nous, c'est notre quotidien. On accompagne ces familles-là au quotidien à travers la province. Donc, ces exemples-là, on les reçoit tous les jours. Et
il y a des gens qui vous appellent pour vous dire « Aidez-moi, là, parce que si ça continue, là, je vais poser un geste que je vais regretter. »
Oui. Ah oui, ça arrive, c'est certain.
Souvent?
Oui. Et on intervient, on va travailler aussi beaucoup avec le réseau de la santé, on s'assure que le référencement se fasse aussi, et on travaille, et ça s'en vient bientôt, que quand il y a un diagnostic qui est posé pour une personne atteinte de l'Alzheimer, mais des maladies apparentées aussi, qu'à ce moment-là, on réfère tant la personne atteinte que le proche aidant.
Ben oui.
Qu'ils aient chacun leur dossier parce que le proche aidant a besoin d'être accompagné. Et je parle de proche aidant parce que c'est la personne qui est la plus près, mais les familles aussi. Parce qu'on le voit aussi dans le dossier de M. Cadotte. M. Cadotte avait sa vision des choses, vivait ses émotions à lui, mais le restant de la famille aussi. Donc, on l'a vu à travers le procès. Donc, c'est une maladie dont on n'a pas conscience des effets collatéraux que ça provoque dans les milieux de la famille.
On va s'arrêter ici. On revient tout de suite après la pause. Si vous voulez nous joindre, bien sûr, vous faites le 514-790-9850. Sans frais partout au Québec. Le 1-866-790-9850. On s'interroge sur la sentence que mérite d'avoir cet après-midi Michel Cadotte. Ce sera à 2 heures. Bien sûr qu'on a très hâte que la juge prononce cette sentence-là pour voir un peu ce que va réserver l'avenir à M. Cadotte. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que Michel Cadotte mérite la prison? C'est ce qu'on saura cet après-midi à 2 heures. La juge Hélène DiSalvo va rendre sa sentence. Je vous rappelle qu'il a été reconnu coupable d'homicide involontaire de sa conjointe, Jocelyne Lizotte, qui souffrait d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il l'a étouffée avec un oreiller en février 2017. Paul, bonjour.
Bonjour, Isabelle.
Vous écoutez notre discussion jusqu'à maintenant. Vous en pensez quoi? De la sentence.
Regardez, là, Isabelle, vous venez me chercher, Isabelle, là, c'est incroyable, là. Moi, mai 2018, ma fille, j'ai deux filles, deux jumelles. J'en ai une qui rentre à l'hôpital de Saint-Hyacinthe pour une opération d'urgence. Elle fait une attaque cardiaque sur la table d'opération. Ils ont pas été capables de la réveiller avant 38 minutes. Elle est décédée cérébralement.
Oui.
Pendant 4 semaines, j'ai été veillé à tous les jours, à tous les soirs. Ses deux enfants, elle avait 2 enfants, un garçon et une fille, puis elle avait sa soeur jumelle. Puis, à tous les soirs pendant 4 semaines. Au bout de 4 semaines, ils ont décidé de prendre, ils ont pris la décision de la faire débrancher. Je les ai conseillés, ben, ils ont pris la décision d'eux-mêmes, sa sœur jumelle et les 2 enfants de ma fille. Mais je peux te dire, Isabelle, que Cadotte ne mérite pas aucune sentence. Parce que j'ai été pendant, elle est décédée seulement 3 semaines après le débranchement.
Mm-hmm.
Puis je peux dire, Isabelle, que moi, j'ai passé proche. Tu mets l'oreiller sur la tête. Alors, c'est quelqu'un à pénaliser, là, tu vas avoir une crise de gagne à pénaliser.
Merci beaucoup, Paul. Je pense qu'on comprend bien là, ce que Paul a vécu. C'est épouvantable. Toutes ces histoires ce matin, il faut absolument faire quelque chose, je pense, s'occuper de tous ces gens qui sont en détresse, qui sont confrontés, tout seuls devant l'innommable. C'est ça, Dr. Georges L'Espérance, vous êtes président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. On commence tout juste à en parler, finalement.
Oui, ben ce dont on a entendu parler, et ce que Mme Grenier aussi a avancé, c'est la détresse de ces gens-là. C'est ça qu'il faut s'occuper.
Ouais.
Et il ne faut pas non plus faut pas seulement attendre que les gens qui sont en détresse ne donnent. Il faut que le réseau autour, il faut que les médecins et les infirmières, il faut qu'ils soient capables de le percevoir et de donner une chance. Par ailleurs, je dois ici préciser que débrancher une personne qui est en mort cérébrale, ce n'est pas du tout la même chose là,
Là, ce qu'on comprenait, c'était que la détresse que vivait Paul pendant 3 semaines, on pouvait
imaginé que c'était comparable ou enfin dans la même lignée que celle qu'a vécu Michel Cadotte en prenant soin pendant des mois, des années de sa conjointe. Il nous reste 30 secondes. Oui, allez-y rapidement.
C'est que, pour revenir à ce qui a été dit un petit peu avant, les directives médicales anticipées ne peuvent pas servir à demander l'aide médicale à mourir. Par contre, elles peuvent tout à fait demander l'arrêt des traitements, quel que soit le traitement. Et l'hydratation et la nutrition, ce sont des traitements.
Exact.
Et ça, c'est ça, il faut l'écrire. Il faut que les gens fassent leur demande.
Merci. Jean-Pierre Rancourt, 10 secondes pour conclure. On va attendre ce jugement, donc à 14 heures cet après-midi.
Bien hâte de voir le jugement. La juge Di Salva, c'est une très bonne juge et elle ne se laissera pas influencer ni d'un bord ni de l'autre.
Non, effectivement. Très bonne juge, Hélène Di Salva. Merci beaucoup, Maître Rancourt. Merci beaucoup, Sylvie Grenier. Je rappelle qu'il y a la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui peuvent vous aider. Allez sur leur site.